enregistrement de son, catégorie FU. Recording FU 200 began at 10 minutes past 6. Depuis combien de temps habitez-vous à Orléans?
Depuis 7 ans.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans, madame?
C'est la situation de mon mari.
Et qu'est-ce qu'il fait?
Mon mari est secrétaire commercial dans une fabrique de confection.
Vous vous plaisez à Orléans?
Non.
Pourquoi?
Parce que c'est la grosse ville, je préfère la petite ville où il y a moins de monde, où nous sommes plus tranquilles, c'est davantage la campagne.
Et est-ce que vous comptez rester à Orléans?
Je n'espère pas.
Et pourquoi encore?
Ben parce que je ne plais pas à Orléans. Les Orléanais sont très froids. Et je ne me suis pas fait d'amis à Orléans.
Et vous êtes ici depuis 7 ans déjà?
Depuis 7 ans.
Et aujourd'hui, vous êtes déménagé pour recommencer encore?
Je recommence pour la troisième fois en 7 ans.
Troisième fois déjà. Mais cette fois, vous avez quelque chose presque à la campagne.
Ah oui, c'est la campagne ici, c'est pour ça que j'ai pris ici. C'était dans un mauvais état quand je l'ai pris, mais c'est la situation qui m'a plu. On a fait des travaux là.
Il y a toujours du travail, n'est-ce pas? Et vous êtes ménagère, vous restez toujours à la maison?
Non, je travaille.
Vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites comme travail?
Je suis employée de banque.
Ah oui. Et c'est quoi au juste que vous faites?
De la comptabilité. Comptabilité et mécanographie.
Est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de travail?
Oui, bien sûr. Mon horaire, ma journée au travail.
Au travail.
Je commence à 8h30 le matin jusqu'à midi. Alors, mon service, là, quand je l'ai quitté, consistait à chèque trésor. Encaissement des chèques trésor, c'est-à-dire tous les chèques qui concernent l'État, si vous voulez, tous les impôts, tout ce qui représente les impôts, les taxes et tout ça. Il y en a énormément. Les gens payent de plus en plus par chèque et j'en vois une moyenne de 3500 par jour. Il faut faire l'entrée et la sortie. L'entrée au compte caisse et la sortie, c'est-à-dire envoyer aux différentes succursales parce que les... Comment vous expliquer les... Les créanciers, par exemple, une personne qui doit aux contributions indirectes d'Orléans est facilement domiciliée à Paris ou à Roanne ou à Lorient. Il faut encaisser les chèques, il faut les faire la répartition, les ventilations. Et je fais ça toute la journée.
Toute la journée, jusqu'à quelle heure alors?
Jusqu'au soir, 7h.
De 8h30?
De 8h30 à midi, j'ai l'interruption de midi à 2h et le soir jusqu'à 7h.
Et vous rentrez ici à la maison?
Je rentre à la maison.
Oui, c'est une journée assez longue.
C'est une journée assez chargée.
Et qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre travail?
Une situation stable, un avenir assuré.
Ah, oui.
Je crois que c'est énorme. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué à travailler, comme j'ai eu des enfants. C'est ça, c'est cet avenir, avoir une situation assurée, être sûr d'avoir quelque chose, si vous avez à vivre.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît dans votre travail?
Non, pas spécialement. Enfin, nous sommes nombreux, nous sommes une quarantaine. Et où j'étais avant, c'était petit bureau, nous étions 8. Meilleure ambiance.
Ah oui. Et si vous ne faisiez pas ce métier-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Il est un peu tard pour y penser, étant donné que maintenant j'ai 18 ans de carrière, mais j'aurais voulu être un homme.
Et pourquoi, madame?
Pourquoi avoir plus de liberté, peut-être? Non pas que je sois sous la coupe de mon mari, pas du tout.
Non.
Mais pouvoir m'évader, aller loin. Pas comment exprimer ça. Si j'avais été un homme, qu'est-ce qui m'aurait plu?
Alors,
la marine m'aurait beaucoup plu.
La marine?
Ah oui. La marine m'aurait plu si j'avais été un homme.
Ça, c'était très intéressant. Mais de plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui.
Oui, parce que je crois qu'en France, les hommes, la majorité, disons, ne sont pas très bien payés, ne peuvent pas assurer une situation convenable à leur famille. Il faut penser à l'avenir des enfants, l'éducation, l'école coûte cher. La nourriture, enfin, tout coûte très cher. Et je crois que c'est pour ça qu'en France, la femme travaille.
Et vous n'êtes pas contre, alors?
Contre le travail de la femme? Absolument pas. Absolument pas. Puisque souvent, c'est nécessaire pour vivre.
C'est ce qu'on trouve. Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre?
Si on peut dire, j'ai mon intérieur, j'ai mes enfants. Et le dimanche, mon plus grand plaisir, c'est quand il fait beau. Enfin, maintenant, je ne pense pas que ça m'attire beaucoup, puisque j'ai le jardin. Quand j'étais en ville, ce qui m'intéressait, c'était de partir à la campagne. Tous les dimanches.
Alors, et de vos soirées, qu'est-ce que vous faites?
Les soirées, je repasse, fais tous mes travaux ménagers, préparer le déjeuner du lendemain, s'occuper des affaires des enfants, surveiller les devoirs. Il y a quantité de choses.
Et le jour finit à quelle heure alors?
Souvent, le lendemain.
Le lendemain, oui. Et comment avez-vous passé dimanche dernier?
À déménager.
Oui.
C'est tout à fait spécial. Vous dire le dimanche d'avant, mais j'ai deux enfants qui étaient partis en colonie de vacances. On les avait conduits à la gare. Et l'après-midi, j'étais allée à mon pays natal, le Petit-Ville.
Chercher toujours le repos.
L'évasion. Le repos, non, parce que je suis très nerveuse et je ne peux pas rester inactive. Mais l'évasion.
L'évasion. Et que ferez-vous pendant les vacances d'été?
Je resterai ici. D'habitude, nous partons tous les ans, pendant 3 semaines, avec mon mari et les enfants. Nous allons en village vacances, une année ici, une année là. Très agréable de s'évader. Mais cette année, nous avons des frais avec la maison, nous resterons dans notre jardin.
Alors, heureusement, vous avez un jardin à vous.
Ah oui, c'est pour ça qu'on pense rester là pendant les vacances. Nous avions fait une demande pour les Alpes-Maritimes à Graffe. J'ai été obligée de me désister. À mon grand regret.
Ça arrive. Si, par exemple, vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, que feriez-vous de ce temps libre?
J'en ferais des choses. J'écouterais la musique. Je lirais. Je me promènerais. S'il fallait que vraiment j'aie l'esprit libre, je n'ai absolument rien d'autre à penser, rien d'autre à faire. Si vraiment j'avais beaucoup de temps devant moi.
Et 2 heures supplémentaires?
Il ne me suffirait pas.
Non. Ça se pourrait. Alors, à votre avis, madame, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école?
Déjà, une chose, je le répète beaucoup au mien, quand j'étais enfant, j'allais à l'école, on apprenait la morale.
La morale.
Tous les matins, nous avions un quart d'heure de morale. Sur différents sujets, les actes quotidiens de la vie. À l'école, on ne leur fait plus de morale. On ne leur apprend pas à saluer, on ne leur apprend pas à dire merci. Alors, les parents disent, mais les instituteurs ne reprennent pas. On t'a un crayon, veux-tu un crayon? Oui. On ne leur dit pas comment on dit. Et on doit aussi leur apprendre. Évidemment, souvent ils sont jeunes, on fait regarder l'avenir en face. Savoir assurer ses responsabilités. Ça, je pense que c'est primordial dans la vie. Voir loin, voir l'avenir et penser à ce qui peut vous arriver.
Et vous croyez que c'est la tâche des professeurs aussi que des parents?
C'est le rôle des parents. Mais je crois que les professeurs doivent aussi participer à cette éducation.
Vous avez parlé de l'éducation et de l'enseignement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est la différence entre l'éducation et l'enseignement?
L'enseignement, c'est leur apprendre un tas de choses, l'histoire, la géographie, les mathématiques, l'orthographe, enfin, toutes sortes de matières. L'éducation, c'est tout à fait différent, à mon avis. C'est pousser un enfant dans le droit chemin. C'est gros.
Vous savez, pour en anglais, c'est très difficile parce qu'il y a un mot, éducation, qui a le même sens en anglais pour les deux.
Pour l'enseignement et l'éducation. Non, moi, par le sens de l'éducation, j'entends faire des enfants droits, pour faire des hommes.
Et pour revenir aux matières, qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
Le latin, j'ai bien des déboires avec le latin. Pas moi personnellement, mais pour mon fils aîné. Il a maintenant 13 ans. En sortant du cours moyen deuxième année, au moment de l'entrée en sixième, il aura fait passer les tests. Et le proviseur du lycée m'a dit vous avez fait une demande pour qu'il est moderne, qu'il suive une classe moderne. Je ne lui conseille pas, mettez-le en classique, il fera un très bon classique. Nous avons essayé une sixième pas brillante. Nous avons essayé une cinquième déplorable. Il avait des moins 25 en latin. Il lui dit un peu à quel point ses tests, et tout ça. Fichait la moyenne en l'air, il faut dire le mot. Et il n'a pas pu continuer. Il est passé en moderne, je l'ai retiré du lycée où il était. Il est dans un autre établissement, en moderne, et ça marche très bien. Je crois qu'il faut que les enfants aient vraiment des dispositions pour bien réussir en latin. Et avoir une idée quand même de l'avenir. Le latin, je pense qu'il y a tellement de débouchés, mis à part les bibliothécaires.
Et dans quelle matière aimeriez-vous que vos enfants soient forts?
En mathématiques. Premièrement, physique, chimie. Je pense que c'est l'avenir. Je le pense.
Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
De causes. Il y a déjà un enfant bien constitué, un enfant en bonne santé. Il doit réussir. Il y a aussi un milieu familial dans lequel il vit. Je crois que si l'enfant a des parents qui ne s'entendent pas, s'il y a des disputes au foyer, je pense que ça agit beaucoup sur le caractère de l'enfant, je le pense. Et ça agit sur son travail, certainement. Maintenant, il y a des enfants doués, il y en a d'autres qui sont moins. Des enfants plus ouverts que d'autres.
Oui, c'est ça. Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
Tout ça dépend s'ils réussissent ou non. S'ils ne réussissent pas, je pense que c'est vraiment du temps perdu de vouloir à toute force qu'ils restent en classe pour dire ils sont étudiants ou ils sont lycéens. D'autre part, si ce sont des enfants doués, si les parents ont des moyens, ce qui est aussi.
Et est-ce que c'est la même chose pour les garçons et les filles?
Maintenant, oui. À l'époque où nous sommes, oui, parce que les filles ont besoin de se faire une situation comme les garçons. On en vient au problème de la femme au travail, du travail de la femme. Ah. Nous ne sommes plus, il y a 50 ans, où la femme restait à la maison, où on apprenait aux jeunes filles à broder, à faire la cuisine, à tenir son intérieur uniquement. Puisque son avenir, c'était de se marier, d'avoir des enfants et de tenir son foyer. Maintenant, non, je pense que garçons et filles sont égaux, c'est pareil.
Et pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que d'après vous, on fait assez pour les habitants à Orléans?
Il y a toujours le problème épineux du logement. Il y a quelques années, quand je suis arrivée à Orléans, en 62, c'était très très dur très difficile de trouver un logement parce qu'il n'y avait pas tous les immeubles qu'il y a maintenant, il y avait à l'époque beaucoup d'Américains. Maintenant, c'est toujours pareil. Et je parle en connaissance de cause, j'ai cherché pendant plus d'un mois un logement. Et c'est vraiment la course. C'est la course. Vous voyez une annonce sur le journal le matin, le journal sort, je ne sais pas, moi, à 5h, 4h30, 5h, on a 7h de logement pris.
Vraiment.
Alors, je parle en connaissance de cause, pour avoir quelque chose de potable, disons. Quelque chose de correct. Mais c'est pas facile.
Alors, on a beaucoup parlé des événements de mai dernier, madame. Et moi, je n'étais pas en France à l'époque. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé?
Il y a eu une révolte générale des étudiants. Les travailleurs ont suivi contre l'enseignement en France. Les étudiants n'étaient pas d'accord. Les ouvriers se sont révoltés contre les salaires. trouvant, et je crois à juste raison, que les salaires étaient trop bas, je les exploitais. Non, il y a beaucoup de, à mon avis, il y a beaucoup d'esprits qui se sont réchauffés. Il y avait certainement des têtes brûlées à la tête de ça, qui ont emmené une vague, un mouvement, une certaine ampleur que je n'aurais pas dû atteindre, à mon avis.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer ces événements ?
Je pense par des têtes, je vous dis, c'est une vague qui a été emmenée par des têtes brûlées. Aussi, les ouvriers en avaient assez, de se sentir exploités.
Et est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans ?
Oh oui, très. Il y a le milieu bourgeois à Orléans. C'est vraiment la ville où il y a énormément de vieilles familles bourgeoises. Ils ne sont pas aisés. Ils sont souvent, disons, moins aisés que des familles d'ouvriers ou des familles d'employés. Mais il y a cette bourgeoisie qui domine. On vous méprise parce que vous n'êtes pas de souche bourgeoise. Ça se sent maintenant là.
Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un bourgeois ?
J'ai une collègue qui est une bourgeoise. Elle n'a pas du tout les mêmes idées que moi, au point de vue vie quotidienne. Je suis sûre, elle fait exactement comme moi chez elle. Elle lave par terre, elle fait sa vaisselle, elle fait son déjeuner, elle lave et repasse les affaires de ses enfants, mais elle ne veut pas l'avouer. Elle n'avouera jamais qu'elle a passé une soirée à travailler, faire des travaux humbles, disons.
Des travaux
humbles.
Humbles.
Modestes.
Modestes, oui.
D'autre part, ils ne voient pas l'avenir comme nous, pour leurs enfants, par exemple. Ils ont dit, bon, ben, si il ne réussit pas en classe, on essaiera de lui donner un travail manuel, ce n'est pas un déshonneur. Je ne trouve pas que c'est un honneur de donner un travail manuel aux enfants. Les bourgeois ne veulent pas parler de ça. Pas de travail manuel. La classe ouvrière, ça comprend la classe ouvrière qui est méprisable.
Alors, je veux bien rentrer au sujet des enfants et des écoles. Madame, quelle différence y a-t-il entre les lycées, les CEG et le CES ?
Il n'y a plus de lycée. Il y a uniquement maintenant des CES et des CEG. Les CES donnent aux enfants la même formation que les anciens lycées et les anciens collèges. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'aux différents baccalauréats. Il y a, je crois, 18 sortes de baccalauréats.
18 ?
Il me semble. J'en suis pas sûre, mais il me semble. Dans les différentes catégories, il y a le baccalauréat, BAP et C, mais alors avec... à l'intérieur, branche maths, branche lettres. Je ne suis pas encore tellement au courant de ça parce que mes enfants en sont encore loin. Mais il me semble qu'il y a énormément de sortes de baccalauréats. Les CEG donnent une formation, plus manuelle aux enfants. Et en général, vont dans les CES les enfants plus doués. Et dans les CEG, les enfants qui ont davantage de mal à suivre au point de vue intellectuel, mais qui peuvent faire de très bons ouvriers, qui peuvent se spécialiser.
Et les différences entre les élèves ?
Comment ça, entre élèves de CES et élèves de CEG ? Je pense qu'il y a tous les milieux dans les CES et tous les milieux dans les CEG, je le pense. Parce que les familles moins aisées peuvent quand même faire poursuivre les études à leurs enfants en obtenant des bourses. Il y a peu d'attribués, le montant n'est pas très élevé, mais ça dépanne.
Et est-ce que l'enseignement a beaucoup changé depuis que vous avez terminé vos études ? Comment ?
Les horaires réservés aux matières ne sont plus du tout les mêmes. Les méthodes ne sont plus les mêmes non plus. Les enfants ont beaucoup plus de méthodes visuelles. Je pense que les professeurs aussi sont plus spécialisés dans le digital. Moi, j'étais élève d'un collège dans une petite ville. Et chaque professeur faisait plusieurs matières, enseignait plusieurs matières. Maintenant, chaque matière a son professeur. Et je pense que c'est vraiment ça. La voix de ce professeur, si on peut dire, est vraiment spécialisée dans ce qu'il enseigne, je crois.
Peut-être je reviendrai à cette question plus tard. Mais comment est-ce que l'on fait le choix entre l'école publique et l'école libre?
Suivant la conviction des parents. Et aussi, c'est une question de prix, car l'enseignement libre est cher. Et il y a bien des enfants de parents qui sont des catholiques vraiment très fervents et qui vont dans les écoles publiques. Il y en a beaucoup. Je crois que la majorité des enfants vont en école publique. Je ne connais pas l'effectif des écoles privées à Orléans.
Et vous personnellement, madame? Comment est-ce que... Quel choix?
Question de bourse. L'enseignement privé est plus cher que l'enseignement public. Et... aussi, j'ai pensé qu'en mettant mes enfants dans l'enseignement public, et en leur donnant une éducation chrétienne par le catéchisme et à la maison, je pensais que c'était suffisant. Point de vue éducation chrétienne.
Êtes-vous favorable à la participation des élèves au conseil d'administration des écoles?
Je suis ça de très loin. Parce que s'il fallait écouter tout ce que les enfants nous racontent, on ferait ci, on ferait ça. Alors, qu'ils participent, peut-être, mais dans une mesure très modérée. Parce que ce ne sont pas aux enfants de faire la loi. Parce qu'il y a des personnes quand même qui sont là pour ça, des personnes qui ont l'expérience, qui sont tout de même plus sages que les enfants.
Espérons-le.
Oui,
et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'enseignement actuel?
Déjà faire une sélection à la base. Car il y a beaucoup d'enfants qui perdent leur temps dans les CES. Pour arriver à rien, combien on en voit qui échouent au baccalauréat? Les parents voulaient les mettre à l'école jusqu'au baccalauréat. Et là, ils ont 18 ans, ils n'ont rien. Ils savent rien faire. Je crois qu'il faudrait davantage orienter les jeunes vers les métiers manuels. On aura toujours besoin de boulanger, on aura toujours besoin de boucher, on aura toujours besoin de mécanicien. Il faut vraiment orienter les enfants selon leurs possibilités. Et ça, c'est à la base qu'il faut le faire. Pas trop jeune, pas à 6 ans, mais je pense que vers 13-14 ans, déjà, la personnalité de l'enfant se dessine et on peut arriver à savoir vers quelle branche il faut l'orienter. C'est pas à 18 ans quand il sort de l'école qu'il n'a rien. Il faut à ce moment-là dire qu'est-ce qu'il va faire.
Faut toujours poser des questions. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, madame, peut-être ça vous fait rire, mais je la pose quand même. Comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous?
Effectivement, ça m'amuse. Bien sûr, je prends des œufs déjà, du sel, du poivre, enfin, l'assaisonnement. Dans ma poêle, je mets du beurre, un petit peu d'huile. Que mon omelette attache. Après avoir bien battu mes œufs, je fais cuire mon omelette. Je la retourne quand elle est dorée d'un côté.
Voilà. Alors.
Ah, c'est très vite fait. C'est le menu à la mine ici quand je n'ai pas le temps. C'est la même chose. C'est le mec.
Moi aussi.
C'est très bon, c'est très nourrissant. C'est très apprécié. Si les enfants, mon mari aime bien l'omelette.
Alors, ça, c'est déjà quelque chose alors.
C'est déjà.
Bon. Alors. Un étranger veut venir en France pour apprendre le français. Dans quelle région est-ce qu'il doit aller, d'après vous?
Disons dans notre région.
Pourquoi?
Nous n'avons pas d'accent. Mm-hmm. Pour un étranger qui arrive, par exemple, le pire, si on peut dire, Marseille, mm-hmm. on ne sait pas s'il doit comprendre grand-chose, parce que même moi, qui suis une personne du centre, il est difficile de suivre une conversation avec un Marseillais.
Et est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'il devrait éviter?
Éviter, non. On ne peut pas dire vraiment. Mm-hmm. On ne peut pas dire éviter parce que, point de vue ville, le midi est certainement beaucoup plus agréable à vivre mm-hmm. que le centre ou le nord. Je crois que, au point de vue accent, c'est une région à éviter.
Et pour bien apprendre le français, quels gens devrait-il fréquenter?
On peut dire qu'il y a toutes sortes de français. Mm-hmm. Les gens, des instituteurs, je crois. Mm-hmm. Je ne parle pas des professeurs. Excusez-moi si vous êtes professeur.
Je vous excuse.
Les instituteurs, instituteurs de petites villes. Qui s'en tiennent malgré tout mm-hmm. au bon français, au vrai français.
Mm-hmm. Et pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils ont un bon français?
Parce que les instituteurs sortent des écoles normales. Ah. Et à l'école normale, on apprend.
Et quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour un étranger?
Ils sont énormes.
Par exemple.
Ça m'arrive hier soir encore avec ma fille qui avait conjugué le verbe rire. Mm-hmm. Maman, je ne sais pas. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu te rends compte, un étranger qui doit conjuguer le verbe « rire mm-hmm. », je crois que c'est facile, parce qu'elle ronchonnait. C'est difficile, je ne sais pas. J'imagine un étranger de conjuguer le verbe « rire mm-hmm. ». Ou un peu. Il y a tellement d'orthographes différentes pour la même prononciation, de prononciations différentes pour la même orthographe. Mm-hmm. C'est très compliqué, le français. L'anglais est beaucoup plus.
Vous croyez?
Je n'ai que formation élémentaire en anglais. Ah. Et c'est assez loin. Pas approfondi, mais je crois que c'est plus facile. La langue française est une des plus difficiles. Disons, on ne peut pas dire la plus difficile des langues européennes, mais c'est difficile. Mm-hmm.
Et est-ce qu'on parle bien à Orléans?
On a personne. Je ne pense pas. Quand tu as parlé, vous voulez dire correctement, mm-hmm. parler français correctement. Mm-hmm. Ça dépend des milieux. Mm-hmm. Et un milieu où on parle correctement, d'autres milieux où on parle mal.
Vous avez parlé des conjugaisons des verbes et des mots qui se prononcent d'une façon tout à fait différente. Est-ce qu'il y a d'autres choses à votre avis qui rendent le français une langue difficile?
Je vous disais, c'est conjugaison. Mm-hmm. Nous ne savons pas prendre, c'est tellement mm-hmm. élémentaire pour nous de parler le français que... Mm. Mais aussi... Des analyses de phrases.
Ah, oui.
C'est très difficile. Mm-hmm.
Mm-hmm. Bon, et quelqu'un est de passage à Orléans. Il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant son séjour. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Ça dépend de ce qu'il désire faire. Mm. S'il veut il va profiter. Du Val de Loire,
J'ai visité une fois.
Si vous voulez le monument, je l'enverrai voir la statue de Jeanne d'Arc, je l'enverrai voir la tour des femmes, le musée. Il y a 7 ans que j'habite Orléans, mais je ne connais pas tellement rien. Je vais dans le centre pour travailler.
Les soirs, on ne voit personne à Orléans.
Pareil. Le soir, c'est très mort.
Et quand même, on peut trouver un parc de station.
Ah, oui.
Le soir.
La journée, c'est autre chose.
Bon.
Comme partout ailleurs, je crois. C'est pas spécial à Orléans, c'est le problème du stationnement. Dans bien des endroits.
Partout.
Yeah. Le français est trop riche, malgré tout. Il y a des voitures, tout le monde a sa voiture.
Quelqu'un frappe à la porte de cette pièce, madame. Qu'est-ce que vous lui dites?
Tout dépend si tu le connais ou si je ne le connais pas.
Et
si je ne le connais pas, à midi, j'ai la visite d'une personne qui d'un démarcheur pour une assurance. Première chose, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi venez-vous? Quel est le but? Si c'est quelqu'un que je connais, que j'ai plaisir à voir, je manifeste ma joie, mon plaisir.
Et qu'est-ce que vous lui dites alors?
Tout dépend à quel point je suis liée avec cette personne. C'est une amie qui vient me voir. Quel plaisir, quel bon vent t'amène, entre, tu es gentille d'être venue ou de t'être déplacée. On va raconter le sujet.
Et vous invitez quelqu'un à prendre quelque chose à la maison? Qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter?
Pour l'inviter? Déjà, je lui demande, comme beaucoup de personnes sont beaucoup prises, très peu de temps libre, je leur demande de faire quelques jours pour être libre. Si ça pouvait correspondre avec les horaires de mon mari et les miens. Je leur dis que j'aurais plaisir à les recevoir un peu, pas trop longtemps. Voilà, ce sont des personnes d'ailleurs je reçois peu, je ne reçois que des personnes que je connais très bien, que j'aime. Ma porte n'est pas ouverte à tous les vents, à tous ceux qui veulent. Je vous parle.
Bon, y a-t-il chez vous un dictionnaire, madame?
Ah oui, monsieur.
Lesquels? Ou lequel?
J'ai le Flammarion, le plus récent, c'est le qui est Flammarion.
Le Flammarion. Oui, c'est en combien de volumes?
Un seul.
Et où gardez-vous ce dictionnaire?
Je l'ai posé là. Attends, est-ce que ça va se
faire? Ah! Et vous l'avez depuis quand?
Oh, c'est tout récent, c'est, je pense, l'édition de 69. Je l'ai acheté en décembre 68. C'est une édition toute récente. C'était la curiosité.
Est-ce que vous avez acheté un magasin ou un représentant?
Non, par la coopérative de l'administration.
Ah. Et qui s'en sert le plus souvent?
Oh, c'est moi.
Et combien de fois par semaine?
En ce moment, peu, mais une semaine où je n'ai pas trop beaucoup de peur. Je n'ai pas beaucoup de travail. C'est-à-dire où j'ai un peu plus de temps libre, disons au moins 3 fois la semaine.
Et quand l'avez-vous regardé pour la dernière fois?
Il y a déjà un certain temps avec mon déménagement, j'ai pas eu.
Et quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent?
Dans celui-ci, qui est un dictionnaire, pas du tout le Larousse. Larousse, c'est le dictionnaire classique où on trouve toute l'étymologie des mots, si vous voulez. Celui-ci, c'est un dictionnaire plus moderne, à mon avis.
Ah oui.
Et je cherche Vous allez rire. Il y a peu de temps, j'ai regardé l'âge du président de Gaulle.
Mais pourquoi pas?
Par curiosité, mes enfants m'en parlaient, je n'étais pas capable de leur répondre. Ce que j'ai regardé sur le dictionnaire.
Je regarde quelquefois les noms et les œuvres des écrivains.
Un peu ce qui me passe par la tête. J'entends quelque chose à la télévision ou à la radio.
C'est le sens alors que vous cherchez, plutôt que l'orthographe.
Oui, le sens.
Le sens. Bon. Et possédez-vous un livre sur l'art de parler ou l'art d'écrire?
Non.
Et ce qu'on peut appeler une guide de savoir-vivre?
Non.
Faites-vous des mots croisés? Lesquels?
Sur des revues que ma mère me passe, des revues spécialisées, des recueils de mots croisés.
Combien de fois faites-vous les mots croisés? Par semaine, par jour?
Ça dépend. Pendant les vacances, par exemple, j'en fais tous les jours. Quand je suis soucieuse aussi, je fais des mots croisés. Ça me fait un verre hydratif, ça me change les idées. Je pense à autre chose, je pense à ce que je fais, tandis que si vous êtes en train de coudre ou de repasser, vous pouvez ruminer, comme on dit. Tourner vos idées noires, tandis que... Là, non, l'esprit ne s'évade pas.
Je reviens maintenant à la question du latin à l'école. Est-ce que vous pensez qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
Ceux qui sont voulus.
Pourquoi?
Déjà aussi pour leur avenir. Pour certaines situations, le latin est indispensable. Tout à l'heure, je vous parlais de bibliothécaire, c'est ce qui me vient à l'idée. Aussi pour. Comment expliquer? Moi, je n'ai pas fait de latin. Je ne peux pas. Jamais fait de latin. Je ne peux pas dire exactement ce que ça nous apporte. Je pense que c'est un enrichissement point de vue littéraire. C'est certainement une bonne base. Certainement.
Et que pensez-vous du franglais?
Il y a suffisamment de mots qui peuvent exprimer ce qu'ils veulent dire en français sans encore hésiter.
Vous êtes contre, alors?
Oui.
Pourquoi êtes-vous contre? Vous avez dit qu'il y a suffisamment de mots. Mais...
Déjà, comment les prononcer, ces mots? On dit, par exemple, en France, nous partons un week-end.
Oui.
Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si à la radio ou à la télé, j'ai entendu un week-end. Un
week-end. Week-end, oui.
Vous parlez de... C'est pour beefsteak. Vous bouchez, vous demandez un beefsteak, d'autres prononceront un steak.
Y a-t-il des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Oui, certainement.
Et ces différences sont-elles très grandes ou grandes?
Elles sont grandes.
Grandes. Et en quoi consistent-elles surtout?
Vous avez rien en fait. À parler français, je vois. Par exemple, mon fils va me dire. S'il vous plaît, maman, veux-tu me donner?
S'il vous plaît.
Oui. Veux-tu me donner?
Veux-tu me donner?
Hier soir encore, je l'ai repris pour ça. Je lui dis, si tu me dis tu, je demande s'il te plaît. Si tu dis vous,
qui demande s'il vous plaît. Eh bien, c'est couramment. On entend des personnes qui se tutoient et qui se disent s'il vous plaît. Mm-hmm. Ça me choque, ça. Mm-hmm. Aussi, quoi vous dire comme exemple, c'est souvent, je la remarque aussi bien dans mon travail que chez un commerçant de ne parler pas français. Mm-hmm. Ça me choque.
Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux ou de plus en plus mal?
Ça dépend des milieux.
Et
les jeunes parlent argot.
Les gens parlent argot.
Les jeunes. Parlent argot. Vous connaissez l'argot?
Oui.
C'est pas beau. Un jour, mon fils s'est moqué de moi parce qu'il me parlait d'un clodo. J'ignorais ce qu'était un clodo.
Un clodo.
Il ne comprenait absolument pas. Il s'est moqué de moi. C'était la clochard.
Ah oui, clodo.
Un pauvre air. Un clodo.
Alors moi, j'ai appris quelque chose déjà.
Ah bon?
Je l'ai appris aussi. Et parmi vos connaissances, quelle est la profession de la personne qui parle le mieux le français?
Parmi mes connaissances. C'est pas ça. Si je suis la situation, ça je ne pense pas. Je crois que c'est un peu inné. Mmh. Je le pense. Parce que la façon de parler aussi vient de la façon dont on vous a parlé étant enfant. Mmh. Vous avez gardé beaucoup de traces. Mmh. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment un rapport avec la situation.
Et la profession?
Non, la profession. Il y a des gens qui ont des professions libérales, on peut dire, qui ne parlent pas tellement bien le français. Par contre, il y a des gens très modestes qui parlent bien français.
Mmh. Y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Oui.
Lequel?
Je pense que c'est l'Académie française.
Mmh. Et est-ce que vous croyez que c'est très utile ou utile ou sans utilité?
Oui, c'est toujours utile. À ce moment-là, où irait le français?
C'est utile.
Mmh.
Est-ce qu'il faudrait obliger les journalistes, les speakers de la télévision, de la radio, à employer un bon français?
Ah, oui.
C'est très important.
Ah, c'est très important.
Pourquoi, madame?
On peut dire que la télévision, la radio, les conférenciers, sont des instructeurs. Les gens écoutent, les téléspectateurs écoutent.
Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la langue française est-elle enseignée aussi bien ou mieux ou moins bien que du temps où vous étiez vous-même à l'école?
Je crois qu'elle est bien enseignée.
Bien enseignée. Et comment l'expliquez-vous, ça?
Faire aux enfants des dictées. Mm-hmm. Des dictées d'auteurs qui ne sont pas des modernes. Donc, qui sont écrites en bon français. On leur fait faire des rédactions. On leur corrige leur exposé.
Mm-hmm. Et est-ce qu'on n'a pas corrigé quand vous étiez à l'école?
Si.
Et vous croyez que c'est mieux aujourd'hui?
Oh, dire c'est mieux, non, je ne pense pas. Non.
Alors, c'était mieux quand vous étiez allé à l'école?
C'est pas mieux. Non, on leur corrige, on peut dire. Dans les écoles, on les corrige. Les professeurs essaient de leur enseigner un bon français. Mm-hmm. De leur faire assimiler un bon français. On ne peut pas dire que c'est mieux qu'il y a 20 ans.
Et dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école?
Mathématiques.
Habituellement, avez-vous quelque chose pour écrire sur vous dans votre sac à main?
Toujours.
Quoi?
Quoi? Toutes sortes de faits quotidiens. Toutes sortes de faits quotidiens.
Ah oui.
Je note beaucoup de choses pour me souvenir parce que.
Et vous avez un carnet ou un agenda ou?
Oui, un petit agenda.
Et quel instrument?
Un crayon. Crayon papier et un stylo aux plumes.
Stylo aux plumes. Vous possédez un stylo à plumes alors?
J'en ai même trois.
Trois. Et quand avez-vous possédé pour la première fois un stylo à plumes?
Il y a très longtemps. J'avais 10 ans à peu près.
Et quand avez-vous écrit pour la dernière fois?
Cet après-midi.
C'était pourquoi?
Pour écrire à mon fils qui est pensionnaire, mm-hmm. et écrire à la directrice de son établissement qui m'avait mm-hmm. demandé un papier pour envoyer mm-hmm. un document.
Avez-vous besoin d'écrire pour votre travail?
Des chiffres.
Des chiffres. Et est-il important selon vous d'avoir une belle écriture?
Ah oui.
Très important.
C'est important.
Pourquoi?
L'écriture dénote la personnalité, révèle une personnalité. La chose primordiale, c'est déjà d'écrire proprement. Écrire droit. Bien former ses lettres, que ce soit lisible. J'estime que c'est même une politesse de bien écrire. Je ne peux pas dire que je fais bien, mais je m'efforce.
Et est-il important selon vous d'avoir de l'orthographe?
Oui.
Très important.
Très important.
Pourquoi?
Où irait le français si le français n'avait pas d'orthographe? Mm-hmm. Que deviendrait-il dans quelques. Je ne peux pas dire dans quelques années, mais dans quelques siècles. Mmh.
Et seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
Ah non.
Pourquoi?
Dans ce domaine, pourquoi changer ce qui est? Mmh. Non. On peut réformer dans bien les domaines, mais pas dans l'orthographe.
Et qui de vous, c'est-à-dire vous ou votre mari, écrit habituellement aux amis comme?
C'est moi.
Et à la famille de votre mari?
C'est moi.
Et à votre famille?
C'est moi.
Vous. Pourquoi?
C'est encore moi, toujours moi.
Pourquoi?
Mon mari n'aime pas écrire.
Et vous?
Pourtant, il s'occupe d'un mouvement sportif mm-hmm. et il a beaucoup l'occasion d'écrire. Dans son travail, il écrit beaucoup. Mm-hmm. Il est au service des achats de tissus. Mm-hmm. Il travaille dans une manufacture de confection.
Oui.
Il faut donc qu'il y ait constamment correspondance entre lui et ses fournisseurs. Mm-hmm. Du point de vue, pour les imprimer, pour. Des métrages. Je sais pas. Il écrit dans son travail, mais pour ce qui concerne la maison, c'est toujours moi.
Et qui remplit les papiers administratifs?
L'un ou l'autre, suivant le temps dont nous disposons.
Et qui de vous possède le meilleur orthographe? Et la plus belle écriture?
Je crois que c'est moi.
Et qui parle dans le meilleur français?
Non, nous parlons tous les deux correctement français, je crois. Mm-hmm. Je ne pense pas, monsieur Lestine.
Et qui écrit dans le meilleur français?
Oh, c'est qui?
Et combien de
lettres? Écrit comme on parle.
Ah oui. Et combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois? dans votre travail. Non. Et hors travail.
Pardon. 15h20.
Et conservez-vous les lettres personnelles qu'on vous envoie? Toujours?
Souvent.
Lesquelles?
Des lettres des personnes de ma famille qui me sont chères, aussi bien de ma famille propre que de la famille de mon mari. Des lettres... Oui?
Et combien en possédez-vous environ?
De lettres?
Oui.
Je ne les ai pas comptées, mais j'en ai certainement... plusieurs centaines, disons. Mm-hmm. Je garde les lettres qui représentent pour moi des bons moments de ma vie. Qui représentent aussi des faits plus pénibles. Mm-hmm. Voilà, en dernier, j'ai été hospitalisée. C'était pour moi très dur. J'ai reçu beaucoup de courriers, j'ai gardé tout ce courrier. Je ne peux pas dire que je l'ai gardé longtemps. Mais pour l'instant, je le garde et il représente quelque chose pour moi. Une valeur sentimentale.
Ah oui. Quand vous écrivez à des amis, faites-vous un brouillon?
Pas jamais.
Et faites-vous attention aux fautes d'orthographe?
Oui, mais je me surestime peut-être, mais je ne pense pas.
Est-ce que vous relisez?
Si j'ai le temps, oui. Je ne fais pas tellement attention, mais je crois que je relis quand même.
Et avec quoi écrivez-vous?
Avec un stylo à plume.
Stylo plume. Et quel type de papier utilisez-vous?
Des papiers que j'achète en librairie, papier courant. Papier non-rayé, papier blanc.
Papier blanc? À carreaux ou...
ah,
non. Papier tout à fait blanc.
Papier vierge.
Papier vert. Et quand vous devez écrire au professeur à l'école de vos enfants, est-ce que vous feriez la même chose, c'est-à-dire est-ce que vous faites un brouillon?
Non, j'ai écrit cet après-midi à la directrice de l'établissement où est mon fils, je n'ai pas fait de brouillon.
Et sur même papier?
Je prends papier grand format.
Grand format.
Pour ma famille, mes amis, je prends souvent papier petit format. Mm-hmm. Pour une lettre, on peut appeler une lettre de convenance. Mm-hmm. Quand j'écris à des supérieurs, j'écris toujours sur du papier grand format.
Ah, et pour une lettre officielle?
Je prends une feuille double.
Et vous faites un brouillon? Et ce papier grand format, lettre officielle?
Oui, c'est papier double.
Papier double.
Disons, mais supérieur. Mm-hmm.
Ça dépend. Alors, les questions que je vais vous poser sont peut-être un peu personnelles, madame, mais j'espère que vous m'excusez. Y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre mari?
De parler?
Non. Et est-ce qu'il y a des choses qui agacent votre mari dans la façon dont vous parlez?
Il ne me l'a jamais dit.
Lui arrive-t-il de vous reprendre quelquefois? Et vous?
Non.
Y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants?
Oui, les enfants parlent souvent d'une façon un peu correcte. En plusieurs sens, un peu correct.
Par exemple,
souvent mal français, mal français, puis un peu souvent des mots argots. Mm-hmm.
Et vous arrive-t-il de les reprendre?
Oui, souvent.
Qui les reprend le plus souvent, vous ou votre mari?
Quand ce n'est pas un, c'est l'autre.
Y a-t-il des mots que vous interdisez de prononcer à vos enfants?
Ah oui.
Est-ce qu'on peut vous demander?
vocabulaire châtier que je bannis de la maison.
Châtier.
Oui.
Et les punissez-vous si les prononce?
Punir, je ne sévis pas, mais je les reprends.
Et vos parents, madame, faisaient-ils attention à la façon dont vous parliez?
Oh oui.
Et qui vous reprenait le plus souvent, votre père, votre
mère? Mon père. Mon père est décédé, j'avais 2 ans. Mm-hmm. Ma mère me reprenait plus souvent. Mm-hmm.
Et pour quel genre de choses, surtout?
La façon de parler, de construire mes phrases.
Et prenait-elle des sanctions quelquefois?
Non.
Bon, merci madame. L'enregistrement, c'est fini maintenant.